Décryptage, Marie Cazadebé.
Après la Chine, fin 2017, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie refusent à leur tour de recevoir tous les déchets plastiques dont les pays occidentaux ne savent plus quoi faire. Pour la Malaisie, par exemple, cela représente 870 000 tonnes par an de sacs, emballages, bouteilles, très peu recyclables. Le pays croule sous les poubelles des autres. La ministre malaisienne de l'Environnement lance un appel.
We are here. Nous demandons aux pays développés de revoir leur gestion des déchets plastiques et d'arrêter d'envoyer leurs poubelles vers les pays en voie de développement. S'ils les envoient vers la Malaisie, nous leur retournerons sans pitié.
Ce business alimente trop souvent les trafics et la pollution locale. L'Asie du Sud-Est n'a pas de meilleure solution que les pays occidentaux pour gérer ces déchets qui leur empoisonnent la vie. Alors est-ce la fin d'un business? Comment vont devoir s'adapter les pays occidentaux? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Laura Châtel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG Zero Waste France, que l'on peut traduire par zéro déchet. Et bonsoir Stéphanie Mongeon.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse au laboratoire d'économie de l'université Paris-Dauphine, spécialiste des questions environnementales. Alors je vous avoue qu'avant de préparer cette émission, j'avais pas idée de l'ampleur de ce business du recyclage du plastique. Un business estimé à 175 milliards d'euros à l'échelle mondiale, selon le Bureau international du recyclage, une organisation professionnelle. Stéphanie Mongeon, si l'on suit le parcours des déchets plastiques à travers le monde, qui sont les producteurs de ces déchets et dans quel pays sont-ils envoyés?
Les producteurs sont les pays riches, pour beaucoup, mais maintenant les émergents deviennent aussi de gros producteurs, et c'est ce qui explique notamment l'évolution et la décision récente qui a été prise par la Chine, en partie. Vers où sont envoyés ces déchets? Eh bien, bon, vous l'avez dit, la Chine accueillait énormément de déchets plastiques. Alors le plastique, on reviendra sur ça, mais renvoie en fait à des résines très différentes les unes des autres. Donc le terme est générique. Il faut voir que derrière, deux plastiques ne sont pas forcément identiques et ne peuvent pas être traités de la même façon. Donc vers la Chine et puis dans les pays d'Asie, recevaient... je crois la Chine 70% des déchets plastiques et des pays voisins aussi des quantités assez importantes.
Alors justement, Laura Châtel, de quel type de déchets parle-t-on? Si on prend par exemple l'exemple de la France, les foyers doivent trier leurs déchets, placer les plastiques dans une certaine poubelle. Alors quelle part quitte ensuite le territoire pour ces pays d'Asie?
Alors c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis de ce qu'envoie la France dans les pays d'Asie, parce que soit ça part directement en Asie, soit ça passe par des plateformes qui sont beaucoup en Allemagne ou en Belgique. Quand on parle des déchets plastiques qui arrivent en grande quantité aujourd'hui en Asie, on parle beaucoup effectivement de déchets d'emballage, mais pas forcément que des emballages produits par les ménages français, ça peut être aussi des déchets d'emballage d'entreprises. Et c'est plutôt le cas pour la France, qui a développé un système de recyclage pour les déchets des ménages qui... pour le coup, fonctionne encore pas mal avec un recyclage de proximité, principalement parce que jusqu'à maintenant, on triait surtout les bouteilles et les flacons en PET qui est un plastique très recyclable, qui a beaucoup de valeur. Donc, a priori, c'était pas celui-ci qu'on envoyait. Par contre, il y a déjà pas mal de déchets d'emballage d'entreprise qui partaient sans doute en Asie. Et surtout, là, on est dans un processus de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire que pour simplifier le geste de tri, on dit aux ménages français de mettre tous les emballages, on va dire progressivement à tout le monde, de mettre tous les emballages dans la poubelle jaune. Donc se pose un petit peu la question de ce que va faire la France de ces déchets plastiques, puisqu'il y en a dans le lot qui ne sont pas des déchets facilement recyclables, qui vont coûter très cher à traiter. Donc c'est un petit peu l'incertitude pour la suite.
Oui. Donc c'est vraiment ça, ce sont les plastiques dont les pays occidentaux ne savent pas quoi faire. Il faudrait finalement les supprimer, les brûler pour s'en débarrasser définitivement. Il n'y a pas d'autre solution?
Effectivement, c'est ce qu'on envoie, c'est les déchets plastiques qui ont le moins de valeur, donc qui coûteraient très cher à recycler, qu'on ne sait pas forcément réintégrer ensuite dans la production de nouveaux produits ou de matériaux, principalement parce que ça coûte moins cher en gros de faire avec du plastique vierge. Après, évidemment, la solution, c'est quand même avant tout d'essayer de faire autrement, c'est-à-dire de réduire à la source notre production. Faut quand même retenir qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de croissance de la production et de la consommation de plastique. Même même dans des pays développés comme la France, on consomme toujours plus de plastique d'une année sur l'autre, et ça, c'est une tendance qui est absolument pas viable. Donc, c'est vrai que la solution avant tout, c'est de réduire, c'est d'arrêter le suremballage, c'est d'arrêter de filmer tout avec du plastique, c'est d'inventer d'autres manières de conditionner et de transporter quelque part nos biens. Parce que ce qui est un petit peu absurde, c'est quand on se dit que tous ces déchets plastiques, c'est même pas des produits qui nous servent à répondre à nos besoins, c'est des produits qui servent à emballer des produits qui nous servent à répondre à nos besoins. On est quand même dans quelque chose d'un petit peu délirant quand on prend du recul.
Alors justement, c'est peut-être délirant ce système, comme vous dites, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt, Stéphanie Monjon, l'intérêt alors des uns et des autres. On comprend, les pays producteurs, finalement, ça vaut moins cher de produire du plastique que d'essayer de recycler les plastiques qu'on a déjà utilisés. Mais les pays importateurs, les pays d'Asie, quel est leur intérêt à récupérer finalement une partie des poubelles des pays occidentaux?
Avant de répondre, j'aimerais juste faire un petit point presque de définition. Alors quand on parle de recyclage, on parle vraiment de valorisation matière. Donc on a de la matière, c'est un déchet, et on va refaire de la matière. Et on n'est pas forcément sur de la même matière. Donc à partir des bouteilles d'eau plastique, on ne refait pas des bouteilles d'eau plastique. Pas encore, peut-être un jour. Et on peut aussi parler de valorisation énergétique, donc c'est-à-dire on va brûler. C'est ce qu'on fait dans nos incinérateurs, donc on va brûler le plastique, et comme le plastique vient du pétrole, hein, c'est un pouvoir calorifique qui est assez intéressant, et c'est un choix français qui est fait. Je crois qu'il y a à peu près entre 40 et 50% des déchets plastiques qui sont traités en France qui sont incinérés. Voilà, c'était juste un petit point. Donc pourquoi la Chine, à un moment, a accepté et même demandé à acheter nos déchets? Eh bien, parce que ils en ont eu besoin. Ils en ont eu besoin pour reproduire, alors pour produire du plastique, des objets manufacturés en plastique bas de gamme. Première chose, il y avait aussi besoin peut-être aussi pour faire des emballages éventuellement. C'était surtout pas pour des usages alimentaires, on refaisait pas ça. Donc il y a eu ce besoin. Donc pourquoi la situation a changé? Parce que la Chine est devenue elle-même un gros producteur de déchets plastiques. Donc aujourd'hui, il va falloir plutôt traiter le plastique, les déchets qui sont sur son territoire. Et puis je pense que la Chine a vu que dans tout ce qu'on lui envoyait, tout n'était pas réutilisable. Et beaucoup de déchets plastiques finissaient finalement en décharge. Et la politique de gestion des déchets en Chine est, on va dire, une grosse affaire, au sens où c'est pas très bien fait pour le moment. Les autorités commencent à s'y atteler, plus ou moins, de façon plus ou moins vigoureuse, mais il y a beaucoup de travail, et là ça ajoutait à ce travail, c'est-à-dire on récupérait une partie des déchets et puis le reste on les laissait. Ce qui, un point aussi sur pourquoi c'était intéressant de leur envoyer, parce que comme on disait, on travaille sur des résines différentes, et pour que ce soit plus le processus de recyclage, pour qu'il soit efficace, il faut avoir des résines identiques. Donc ça nécessite un tri extrêmement fin. Et ce tri, on peut le faire avec les hommes. Et
donc, une main-d'œuvre finalement à moindre coût.
Exactement.
Donc à l'autre bout du monde.
Exactement.
Alors vous parliez de la Chine qui produit elle-même des déchets plastiques. C'est aussi le cas évidemment dans les pays d'Asie du Sud-Est qui ont suivi en fait qui ont pris le même chemin que la Chine, surtout lorsqu'elle a fermé ses frontières aux poubelles des pays occidentaux. Donc des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines ont pris le relais des pays qui produisent eux aussi des déchets, comme on va le voir à Amani. John Mendoza travaille à l'agence gouvernementale chargée de la réhabilitation du fleuve Pasig, qui traverse donc des bidonvilles de la capitale des Philippines. Et c'est en fait un fleuve aux allures de décharge aquatique.
Les gens n'ont qu'un trou dans leur mur pour faire leurs besoins, mais aussi pour déverser leurs poubelles directement dans l'eau. Nous avons un code de l'eau qui prévoit d'infliger des amendes à ceux qui jettent leurs ordures dans les canaux. Le problème, c'est que les autorités locales chargées de faire appliquer cette loi ne font rien. L'autre partie du problème provient de cette habitude de consommer ces sachets. Un jour, j'ai emmené les gens d'Unilever voir l'un de ces canaux envahis d'ordures. Dans l'eau, ils y ont retrouvé les emballages de tous leurs produits. Ils ne s'imaginaient pas que la situation était si mauvaise. Quand je leur ai demandé s'ils comptaient arrêter de produire du plastique à usage unique, on m'a rétorqué que c'était impossible.
Laura Châtel, donc jusqu'au 31 décembre 2017, la Chine importait près de 60% des déchets plastiques au monde. Cette part est tombée à 10%. Le fait que des pays comme les Philippines, qui ont déjà du mal à traiter leurs propres déchets, aient pris le relais, ça a vraiment accentué le problème et les dérives de ce business des déchets plastiques.
Je ne sais pas si ça l'a accentué, mais en tout cas, clairement, ça a un peu déporté le problème vers des pays frontaliers de la Chine qui ont parfois encore plus de mal à réguler, à encadrer et à faire fermer très clairement ces usines de recyclage illégal. Et donc effectivement, la situation très concrète, c'est que certains villages dans la campagne malaisienne ou dans la campagne thaïlandaise se sont vus inondés tout d'un coup de déchets plastiques parce que un homme d'affaires un petit peu véreux ou une mafia locale installait une usine dite de recyclage qui consistait souvent à entreposer les déchets, à les faire trier par les gens qui étaient sur place, et puis surtout, et c'est là que ça pose beaucoup de pollution, à éliminer le reste, donc soit en le déversant dans les rivières, soit en les brûlant à l'air libre. Et là, ça peut créer des problèmes même sanitaires, de santé pour les gens. On a vraiment des cas d'empoisonnement, soit de bétail, soit de la population, des terres agricoles qui sont plus exploitables. Donc clairement, il y a des effets très très concrets dans certaines zones de Malaisie, et l'État a beaucoup beaucoup de mal à cadrer ça, à faire fermer ses usines, puisqu'il en fait fermer une, et puis elle ouvre dans une autre région où l'État est un peu moins présent. Donc effectivement, la réaction quelque part logique, c'est d'essayer de fermer plutôt les ports pour en tout cas endiguer, on va dire, l'inondation.
Ça, ce sont les dérives qui sont pointées dans le rapport du réseau Gaïa, dont fait partie Zero Waste France. Donc on peut le rappeler, des trafics, des usines illégales, et évidemment une pollution aggravée. Stéphanie Mongeon, est-ce que justement ce business ne repose pas sur des législations plus faibles dans ces pays-là que dans les pays occidentaux producteurs de déchets? Vous le disiez déjà de la Chine, on profite aussi un peu de ce laxisme.
Oui, quand on parle de législation, il faut en fait distinguer deux éléments. Il y a, est-ce que la loi existe et qu'est-ce que dit la loi et comment le contrôle s'effectue? Et ça vient d'être dit, c'est-à-dire est-ce que les pouvoirs publics, le gouvernement a la capacité d'éviter un trafic, la mafia. La mafia, le trafic, on est en dehors des lois. Les lois ne permettent pas forcément, selon les pays. On n'est pas forcément face à une législation en matière environnementale très faible, absente. Mais des fois, il y a une difficulté à faire respecter cette loi, y compris en France d'ailleurs. On sait qu'il y a des lois qui sont pas très bien respectées, et puis les autorités de contrôle commencent à manquer. Donc c'est un élément qui semble important. Donc le choix de fermer les ports, au moins c'est ça centralise la décision, et c'est peut-être plus facile à faire appliquer que d'aller contrôler toutes les petites usines illégales qui peuvent ouvrir sur l'ensemble du territoire.
Alors fin 2017, on disait, la fermeture de la Chine aux poubelles des pays riches s'est fait sentir à l'autre bout de la chaîne, comme au Canada, qui n'exportait d'ailleurs pas que du plastique. Sophie Bernard est professeure à l'Université Polytechnique de Montréal. Voilà la situation qu'elle observait à l'époque.
Je constate au Québec, c'est la crise. Donc les centres de tri ne trouvent pas preneur pour les papiers et cartons. On se ramasse avec des amoncellements de ballots de papier carton dans les parkings des centres de tri. Et évidemment, quand c'est à découvert comme ça, sous la pluie, éventuellement la neige, ça prend pas en qualité. On a un terrible problème de qualité avec notre marchandise. Et les États-Unis aussi se retrouvent dans certains cas avec des gros problèmes liés à la fermeture de la Chine.
Stéphanie Mongeon, vous le souligniez tout à l'heure, donc c'est un business. La Chine a eu besoin à un moment de ces matières plastiques. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour les pays importateurs de déchets, les inconvénients sont plus importants que les possibilités grâce à ces déchets?
Oui, certainement. Certainement. Et puis, le contexte a beaucoup changé aussi. On parle beaucoup de la pollution des océans, comme vous le savez. Or, en matière de décharge, enfin le plastique est quelque chose, un objet assez léger, et donc quand il n'est pas bien conditionné, eh ben, il peut facilement s'envoler, se retrouver dans les océans. Et donc, dans ces pays, en plus, les décharges, et là, on doit en avoir conscience, parce que c'est aussi notre responsabilité, puisque nous sommes producteurs de ces déchets. Eh bien, si les décharges ne sont pas correctement gérées, eh bien, une partie des déchets plastiques vont finir dans les océans avec des particules de plastique que nous mangeons actuellement un peu tous.
Alors, Châtel, à la décision donc de la Chine fin 2017, beaucoup de pays se sont retrouvés à se poser la question de la destination de leurs déchets plastiques. Est-ce que la décision de la Chine a eu un effet sur la conception même, finalement, du traitement des déchets dans les pays occidentaux?
Pas vraiment, en tout cas pas encore un effet très concret au-delà d'effets un petit peu négatifs, c'est-à-dire qu'il y a certaines villes américaines par exemple qui ont dû stopper tout simplement leur programme de recyclage parce qu'il était un petit peu plus, on va dire, libéral qu'en Europe, donc il n'y avait pas de mécanisme financier autre que le libre marché et donc ça devenait plus intéressant de recycler ces déchets, donc on a tout simplement enlevé les bacs de recyclage chez les gens. Au-delà de ça, ça a créé quand même des décisions politiques hein, en Europe, la directive sur le plastique à usage unique est aussi dû en partie à cette décision chinoise qui a créé quand même un petit électrochoc. Mais on en est encore au stade de la décision politique qui, mine de rien, prend beaucoup de temps à être mise en pratique. Et au-delà de ça, on n'a pas non plus développé de manière très très importante de nouvelles filières de recyclage. On est encore quand même un petit peu bloqué. L'industrie pousse beaucoup pour développer des systèmes de ce qu'on appelle des combustibles solides de récupération qui sont une forme de valorisation énergétique, on va dire, un petit peu plus efficace. Mais bon, on résout pas tellement le problème de la pollution ni de la quantité. Donc voilà, effectivement, pour l'instant, on n'a toujours pas de solution clé en main pour gérer ce flux. Hein.
Stéphanie Monjour, le fait qu'il y ait une solution finalement pratique et pas très chère à envoyer ces déchets à l'autre bout du monde, est-ce que ça pas ralenti aussi peut-être les recherches de solutions dans les pays occidentaux?
Certainement, parce que c'est vrai que ça coûtait beaucoup moins cher de les envoyer que de construire des capacités de production capables de traiter ces différentes matières. Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, le tri, on doit faire un tri relativement fin. Mmh. Et alors bien sûr, il y a eu des progrès sur les scanners optiques pour ça, pour trier ces matières de façon mécanique. Mais finalement, l'homme est nécessaire au bout de cette chaîne.
Alors maintenant que la Malaisie, les Philippines, on a cité aussi la Thaïlande, refuse d'être les poubelles du monde. Est-ce que on va pas se remettre justement à réfléchir à ce qu'on fait de tout ce plastique? Si. Est-ce que finalement c'est pas la fin d'un business, Stéphanie Monjour?
La fin d'un business, bon, je ne dirais pas ça comme ça, mais ça va nous amener à réfléchir et c'est une bonne chose. Il est urgent de le faire. Alors attention aux solutions faciles. Qui pourrait apparaître. Je sors d'une conférence et on m'a remis avec une assez grande fierté une bouteille en fait d'apparence plastique, mais en me disant c'est de la production végétale. Mmh. Alors c'est finalement moi c'est quelque chose que c'est un risque. Il ne faudrait pas refaire ce qu'on a fait pour les biocarburants, c'est-à-dire que substituer toute la matière plastique qui vient de la pétrochimie par de la production qui vient de la végétation, ça a des conséquences qui peuvent être importantes parce que la production agricole ne sera plus utilisée à usage alimentaire premièrement, et nous sommes quand même sur une population mondiale qui continue à croître et de façon assez importante. Donc on a cette question, il faut nourrir le monde. Et deuxièmement, il s'est trouvé que le fait d'agrandir les terres agricoles, des fois, on aboutit à la déforestation. Et ça, en émission de gaz à effet de serre, c'est dramatique.
Laura Châtel, un mot pour conclure justement. Alors on va peut-être limiter finalement nos consommations de plastique parce qu'on ne saura pas quoi faire de nos déchets. Il ne faut pas tomber non plus dans le travers d'une autre matière. Qu'est-ce qui se dessine selon vous? Quelle serait la meilleure solution pour éviter d'être bloqué et de crouler sous nos déchets?
La meilleure solution, évidemment, c'est de réduire notre consommation de plastique et donc avant tout, en fait, de repenser l'usage qu'on en fait et de supprimer tout ce qui est usage unique, en tout cas de le limiter au maximum. C'est ça aujourd'hui le problème, hein, 50% de notre consommation de plastique est utilisée pour produire des emballages à usage unique à peu de choses près. Donc on est vraiment dans un phénomène un petit peu fou. Et donc, si on peut terminer par une note d'optimiste, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, en France, on voit le développement de manière très importante de la vente en vrac et la vente sans emballage. Les consommateurs y adhèrent.
Et on rappelle, puisqu'on en parlait ensemble, en 2017 aussi, l'interdiction des déchets plastiques à usage unique au sein de l'Union européenne.
De certains types de produits, pas tous, mais certains.
Merci Laura Châtel, merci Stéphanie Monjour et merci à toute l'équipe de Décryptage.